Bienvenue sur Africa Radio. À présent, nous allons prendre la direction à Abidjan pour notre duplex du jour, donc comme d'habitude. Et puis, nous retrouverons notre dernière invitée de la semaine en duplex de Babi dès demain. Avant cela, vérifions si la connexion est bonne avec le commandant de bord, c'est Alkali Fadiga, comme d'habitude. Bonjour Alkali, comment ça va ce matin à Babi? Bonjour.
Bonjour Aïssa, ça va très bien, l'équipe est en forme.
Bon, très bien. Alors c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Ismaïl Diaby pour parler un peu de son parcours très inspirant, parler également de son métier. Alors merci de nous rejoindre en duplex d'Abidjan. Ismaïl Diaby, vous êtes le directeur général du groupe Visa Afrique de l'Ouest et Centrale, francophone et lusophone. Merci de nous rejoindre. Est-ce que vous allez bien?
Bonjour Aïssa Thiam, écoutez, je vais très très bien.
Alors, on va parler un peu de l'actualité de Visa sur le continent africain, mais aussi de votre parcours. Alors, tout d'abord, vous pensez que la crise sanitaire due à la Covid-19 a et va continuer de favoriser l'accélération de la digitalisation des transactions financières en Afrique. Pourquoi dites-vous cela?
Alors, presque tous les aspects de la vie quotidienne ont changé depuis l'avènement de cette crise. Les grandes entreprises, les petites entreprises, les gros commerçants comme petits ont subi de plein fouet cette crise, cette pandémie.
Oui.
Et il y a un certain nombre qui ont pu s'en sortir. Ce sont celles qui ont su s'adapter aux nouveaux modes de consommation des populations. Donc c'est vrai que, notamment au niveau du e-commerce, ces changements ont été des défis pour ces commerces, mais également d'énormes opportunités. De nombreux observateurs aujourd'hui pensent que cette pandémie et les changements qu'elle a engendrés au niveau du monde, notamment du paiement, est une situation qui va perdurer dans le temps. Quand bien même une solution serait trouvée par rapport à cette pandémie, notamment un vaccin, ces changements vont perdurer dans le temps et les entreprises du continent, les commerçants, les institutions financières du continent devront s'adapter à ces changements et s'adapter aux nouveaux modes de consommation de leurs clients.
Alors justement, c'est le cas en Côte d'Ivoire puisque vous avez constaté, vous avez observé une augmentation de 27% des transactions en ligne au cours des six derniers mois par rapport à 2019. Alors est-ce que c'est le cas aussi dans les autres pays d'Afrique subsaharienne ?
Oui, effectivement, Aïssa Thiam, ce phénomène n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire ni au continent, il est global. Je vais vous donner quelques exemples. Au Kenya, en l'occurrence, 43% de la population kenyane a pour la première fois fait recours au paiement digital, ou donc aux plateformes de commerce digital, pour payer leurs produits pharmaceutiques.
Oui.
Tout ceci parce qu'ils ne voulaient pas s'exposer à la maladie en fréquentant les lieux de vente physique. En Afrique du Sud, nous avons également constaté une réduction de 63% du taux de fréquentation des épiceries et petits commerces. Et donc, vous imaginez bien que cette baisse de fréquentation a été compensée par une augmentation des transactions sur le e-commerce. Et pour finir, je prendrai l'exemple du Nigeria, où 42% de la population nigérienne a pour la première fois commencé à acheter des produits alimentaires, que ce soit à manger directement comme une pizza ou commander des produits alimentaires. Donc on commençait à le faire pour la première fois durant ces derniers mois. Donc la tendance générale était réellement sur l'ensemble du continent et même à travers le monde, d'éviter ces lieux fréquentés.
Oui.
Et finalement, on a vu que les populations se sont accoutumées progressivement à ce mode de consommation parce qu'ils l'ont trouvé non seulement commode, mais également rapide dans la façon de consommer.
Alors nous savons que généralement les populations sur le continent sont dans des métiers informels. Alors comment ces personnes qui n'utilisent que du cash dans leurs activités conçoivent cette question de la digitalisation, je vais y arriver. Et comment peut-on les amener à cela?
J'avais le même problème à prononcer.
Non, très bien, donc, ça alors, ira alors.
Aujourd'hui, il faut savoir que 95% des dépenses de consommation des ménages en Afrique,
oui,
subsaharienne notamment, sont effectuées encore en cash. Donc, nous avons également constaté que c'est vrai que une majorité de ces commerçants aujourd'hui n'ont pas de solution d'acceptation de paiement digital. Ceci pour différentes raisons. Il y a une première raison, vous savez, les anglo-saxons disent « what you don't know, you don't know », ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas.
Ouais.
Donc, il est, ces populations ne savaient pas forcément ou ne savent toujours pas forcément qu'il y a une alternative au cash qui existe, qui est fiable, sécurisée et rapide. Je pense que ça, c'est le premier des chantiers. Et nous l'avons, il y a quelques années, essayer d'apporter des réponses à cela, notamment en Côte d'Ivoire,
ouais.
En sillonnant 22 villes du pays, en rencontrant directement 15 000 de nos concitoyens en Côte d'Ivoire, afin de parler de gestion d'argent, d'épargne, de crédit, également d'outils de paiement digitaux. Donc, alors maintenant, on les éduque.
Alors, comment justement comment ces rencontres se sont passées et qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les réactions de ces populations lorsque vous les avez rencontrées?
Effectivement, donc on les a rencontrés avec en partenariat avec le ministère de l'Éducation Côte d'Ivoire, donc le programme d'éducation financière de l'État ivoirien. Alors, ces personnes ont un certain nombre de freins.
Oui.
Premier frein, c'est OK, très bien. Vous dites que ça existe. Quelles sont ces solutions? Donc, et nous apportons des réponses en termes de solutions, qui sont des solutions que nous développons avec des fintechs locales. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, travailler avec les ressources locales du continent.
Ouais.
Nous avons pas mal de champions nationaux, une société telle que, une fintech telle que Weblogy, dirigée par M. Daniel Awassa et Gilles India en Côte d'Ivoire, SICAP, je peux en citer plein d'autres en Côte d'Ivoire et dans le continent, qui développent des solutions simples, adaptées à ces commerçants-là, sécurisés, et qui était quelque chose d'extrêmement important pour nous, et moins cher. Je prends l'exemple de, vous savez, aujourd'hui, vous allez dans un commerce, le moyen de payer, c'est je prends ma carte, j'introduis dans un TPE pour pouvoir payer.
Ouais.
Alors aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, ce qui est développé, et nous avons commencé à le lancer ici sur le continent, c'est que ce TPE-là se traduise aujourd'hui en un simple bout de papier. Donc on passe de centaines de milliers de francs CFA pour accepter du paiement pour le commerçant, un simple bout de papier qui coûte à peine quelques dizaines de francs CFA. Donc,
l'aspect c'est le chèque, en fait.
Non, alors, c'est ce qu'on appelle du QR code. Okay, c'est payé par QR code. En fait, c'est un code que
l'on utilise. D'accord, le QR code,
voilà, qui est scanné, oui. Voilà, qui est scanné, exactement, et qui fait office d'outil d'acceptation de paiement. Alors, donc, on propose tout cela, mais un des autres challenges de ces commerçants, c'est de dire, OK, moi, j'ai l'habitude de ne payer que de la patente, mais je dois payer des taxes à l'État. Et ce qui est un gros frein pour ces commerçants-là. Aller dans la formalisation de leur économie induit payer des taxes. Bon, là encore, nous travaillons avec un certain nombre de gouvernements dans le monde pour mettre en place ce qu'on appelle des politiques d'incitation fiscale, pour réduire, en fait, la TVA qui est collectée par les commerçants. Je vous donne un exemple. 18% de TVA collectée par un commerçant, plutôt de reverser ces 18%, 8% ou 10% sont reversés à l'État, moyennant acceptation de paiement digital. Donc, l'État demande à ses commerçants d'accepter du paiement digital.
Ouais.
Et en lieu et place de reverser 18%, 10% ou 8% sont reversés. L'avantage pour les États est que ça permet à l'État de collecter une taxe qu'elle n'avait pas l'habitude de collecter auparavant parce que c'était du cash qui était accepté par ces commerçants-là. Donc, en termes de traçabilité, il n'y a pas une traçabilité telle qu'on peut l'avoir avec du paiement digital. Et l'avantage pour les commerçants, c'est l'inclusion financière. Parce que ces commerçants, en recevant leur paiement au travers de leur téléphone mobile, par exemple, on pourra demain greffer des solutions d'assurance leur téléphone, des solutions d'épargne, des solutions de crédit. Et je prends un exemple, prenez Madame Conan qui est une vendeuse de fruits et légumes au marché de Cocody, qui fait une recette de 10 000 francs CFA par jour, va avoir tous les jours sur son téléphone directement 100 francs qui seront collectés ou 200 francs qui seront collectés pour assurer sa famille, 300 francs qui seront collectés, enfin 1 000 francs qui vont collecter pour son épargne, et ainsi de suite, y compris 100 francs, 200 francs qui seront collectés pour rembourser les crédits. Et ça lui permet, avec le crédit, d'accroître son activité, d'embaucher d'autres personnes.
De mieux se soigner, etc.
Exactement. Donc le digital apporte des réponses à tout ceci.
Alors l'une de vos priorités, c'est la lutte contre la fraude. Alors l'équipe de lutte contre la fraude au paiement de visa a constaté un changement également dans les activités frauduleuses pendant cette crise sanitaire. Alors quelles sont les formes les plus répandues et comment luttez-vous contre ces pratiques ?
Très bonne question. Ce qu'on nous avons remarqué, c'est une augmentation de ce qu'on appelle le phishing et le vishing. Alors, phishing et vishing, je vous dire tout de suite, ce sont les hameçonnages, les emails que vous recevez de ces fraudeurs,
oui.
Par email ou par téléphone, qui essayent de piquer en fait
vos données, informations. Oui.
Exactement, pour pouvoir les utiliser pour faire les activités illicites. Autre sujet également, ce sont des hackers en fait qui essayent de s'attaquer au système bancaire en introduisant ce qu'on appelle des malwares ou des logiciels espions qui s'introduisent dans le core banking system des banques, observent ce qui se passe et collectent des données pour pouvoir les utiliser encore pour des activités frauduleuses. Et sur le e-commerce également, c'est vrai que maintenant, les fraudeurs essaient de s'immiscer entre le client et les sites de e-commerce et essaient de s'introduire. Alors, le sujet de la sécurité est un sujet que nous prenons très au sérieux chez Visa. Nous investissons des sommes colossales, une partie très importante, un pourcentage très important de notre chiffre d'affaires. Et nous développons des solutions. Je ne sais pas si vous êtes accoutumé de paiement en ligne.
Absolument.
Depuis quelque temps. Ouais. Vous savez, quand vous payez, il y a un code qui vous est envoyé par la suite.
Par la banque.
Que vous devez renseigner par la banque, exactement, que vous devez renseigner afin de que votre transaction soit approuvée et passée. Donc, c'est un niveau de sécurité supplémentaire pour que votre transaction soit approuvée. Donc, nous développons plein de solutions de ce type-là. Nous, également, développons des solutions pour les banques, pour leur donner une certaine autonomie et leur permettre de créer des règles propres à elles-mêmes pour l'acceptation des transactions. Et aujourd'hui, maintenant, on peut vous donner un contrôle de ces règles-là et vous allez pouvoir vous-même définir, vous voyez ça, définir les règles de fonctionnement de votre carte. C'est-à-dire que moi, je suis à Paris, ma carte ne pourra faire aucune transaction en dehors de Paris.
Ouais.
Ma carte ne peut faire aucune transaction de e-commerce. Ou par exemple, d'aujourd'hui à samedi.
Ou la nuit, par exemple.
Ma carte ne peut l'utiliser. Et pour la nuit, par exemple. Donc, on peut donner maintenant aujourd'hui cette autonomie aux différents clients, individus tels que vous et moi, pour contrôler le mode d'opération de leur carte.
Alors, les possibilités de paiement via le téléphone mobile se multiplient en Afrique. Quels sont les chiffres et quel est le profil de ces utilisateurs ? On parle souvent de jeunes.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que la technologie du mobile en Afrique croît de manière exponentielle. Et nous pensons qu'au fur et à mesure que ces technologies se simplifieront et que les coûts seront ramenés vers le bas, c'est une grande partie de la population africaine, subsaharienne notamment, aura accès à la téléphonie mobile. Les derniers rapports de l'association GSMA, qui aujourd'hui assure les intérêts en fait, des opérateurs télécoms, dit que d'ici 2025, 84% de la population africaine, soit 1 milliard à peu près, aura accès à la connexion SIM, à des connexions SIM. Donc c'est 3,7% de croissance par rapport à 2017. Et c'est 150 milliards de dollars supplémentaires injectés dans l'économie africaine. Bien que nous ne disposons pas de données officielles sur le paiement mobile aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur le niveau de croissance de la téléphonie mobile en Afrique et estimer que cette croissance est exponentielle. C'est vrai que sur le continent, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent les paiements. De plus en plus de gens utilisent les paiements digitaux.
Ouais.
Et au fur et à mesure que ces technologies seront simplifiées, seront moins onéreuses pour eux, on aura de plus en plus d'Africains connectés. Et chez Visa, on a compris l'importance de cela. Donc, nous avons développé avec ces fintechs, avec les autres partenaires bancaires, opérateurs télécoms, etc., un certain nombre de solutions, telles que Visa Mobile, qui permet justement, je vous parlais tout à l'heure, de paiement par QR code, donc qui permet de payer par QR code en domestique et à l'international. Également des solutions telles que Visa Direct qui permet de faire du transfert d'argent en domestique et à l'international. D'accord. Et c'est un sujet extrêmement important pour nous.
Alors en Afrique, le paiement par carte gagne du terrain. Selon une étude, selon les chiffres, l'Afrique et le Moyen-Orient compteraient d'ici 2021 910 millions de cartes de paiement en circulation contre 611 millions en 2015. Pourrait-on imaginer, et à quelle échéance selon vous, que chaque Africain ait sa carte de paiement, comme c'est le cas en Europe par exemple ?
Écoutez, c'est une priorité, c'est pour ça que je suis là. Nous sommes, c'est une priorité pour Visa. Dans notre agenda, il est important, il sera crucial pour nous que chaque Africain puisse avoir un moyen de paiement digital pour pouvoir payer ce dont il a besoin. Donc nous continuons à travailler avec les gouvernements africains. Nous essayons de mettre en place des programmes, des MOU, etc. avec les États africains afin de pouvoir accélérer cet agenda-là. Et donc pour nous, tant que nous ne parviendrons pas à ce résultat-là, nous continuerons à nous investir de manière intensive sur le continent afin de pouvoir respecter cette promesse-là. Donc, et nous avons l'habitude de respecter les promesses.
Justement, Visa compte 6 bureaux implantés en Afrique et un seul en Afrique subsaharienne, donc celui d'Abidjan, où vous êtes. Alors, quels sont les objectifs et comment comptez-vous renforcer cette présence ?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus de ces six bureaux, parce que nous en avons récemment au
Kenya, Afrique du Sud, Nigeria,
au Rwanda,
oui, oh, d'accord, au
Caire,
Rwanda.
Maroc, oui. Ouais, exactement, d'accord. Nous en avons au Rwanda, nous en avons un à Accra, ouais. Nous en avons un en Éthiopie. Donc, nous allons continuer à nous étendre sur le continent. C'est un sujet extrêmement important pour nous. Donc, tant qu'on aura besoin de nous dans ces différentes parties du monde-là, tant qu'on pourra apporter notre pierre à la construction de cet édifice qui est l'accélération du paiement digital, nous continuerons à nous étendre et à être proches des différents gouvernements. Mais une chose est importante également de noter, c'est que La croissance à laquelle nous voyons le paiement se développer dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, une bonne majorité de la population a une carte bancaire, etc. Sur le continent, les réalités en Europe ne sont pas forcément celles du continent. Ouais. Et les réalités en Europe ne sont pas forcément celles de l'Asie. Donc l'Afrique aura ses propres spécificités. Donc pour nous, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de donner forcément une carte plastique comme on le voit en Europe à chaque Africain, mais c'est de s'adapter à ce que l'Africain utilise en général, c'est le téléphone mobile. Donc plutôt que nous demander à l'Africain de venir récupérer une carte de paiement Visa chez les différents partenaires, c'est à nous plutôt de nous aller vers les clients et de s'adapter à leur mode de consommation. Alors, non, juste pour dire que aussi bien dans d'autres pays du monde, aujourd'hui, on peut payer avec sa bague, on peut payer avec sa voiture, on peut payer avec son bracelet, avec sa montre. Donc, ça, c'est développé dans d'autres pays du monde, mais pas encore en Europe. Donc, vous voyez que chaque région du monde a ses spécificités.
Avant de vous laisser vous présenter, raconter un petit peu votre parcours en quelques mots. Il existe des étapes, on va revenir sur la sécurité parce que c'est une question qui est quand même primordiale. Vous dites qu'il existe des étapes simples pour que chaque consommateur puisse suivre et sécuriser en fait ses achats en ligne. On va en faire profiter les auditeurs qui sont à l'écoute ce matin. Quelles sont ces étapes ? Vous pouvez nous les donner ?
Point fondamental, vous l'avez dit. Alors, je vais y aller rapidement. Donc, le premier point, c'est quand on va sur Internet pour payer, il y a l'URL du site. Hein. C'est HTTP, /, etc. Donc, le HTTPS, en ayant un S, c'est un gage de sécurité. Donc, s'assurer, quand on va payer sur un site Internet, de s'assurer qu'il y a le petit S qui apparaît. Nous également développons des solutions de sécurité pour s'assurer que lorsque la transaction est effectuée, il y ait ce code d'authentification dont on a parlé un peu plus tôt. Et ça, c'est en général sur ce type de site avec le S à la fin. Deuxième sujet, c'est les paiements mobiles. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important de pouvoir mettre à jour régulièrement ces codes, ces mots de passe, parce qu'en les laissant perdurer trop longtemps, beaucoup de gens peuvent avoir accès à ces codes-là, donc il est extrêmement important.
À quelle fréquence l'échanger, selon vous ?
Écoutez, nous, on le fait régulièrement une fois tous les 2 mois ou 3 mois, et faire attention également à ce que ces codes ne soient pas des séries de chiffres, des dates de naissance, des dates de mariage, etc. Faire attention qu'il n'y ait pas des informations qui peuvent être devinées assez facilement. L'autre sujet également, ce sont les malwares. Faire attention, les phishing et les vishing, c'est de faire attention lorsqu'on reçoit des emails, d'éviter au maximum possible de. Enfin, c'est même pas d'éviter.
Des fois, c'est un peu compliqué à reconnaître.
C'est ignorer, à deviner. C'est appeler la banque, appeler l'organisme en question pour savoir est-ce que vous m'avez bien envoyé cet email, etc.
Ouais.
Et si ce n'est pas le cas, non. Mais en général, moi, par défaut, j'efface. Par défaut, je recommande d'effacer, de ne pas ouvrir les fichiers, de ne pas cliquer sur les liens qui sont envoyés dans ces emails-là. Faire extrêmement attention parce qu'ils sont extrêmement malins, ces fraudeurs. L'avant-dernier point, c'est de s'assurer de mettre à jour. Quand on demande l'ordinateur ou votre téléphone vous demande de mettre à jour votre logiciel, il faut le faire. Parce que dans ces mises à jour, il y a des upgrades au niveau des mises à jour au niveau sécurité.
Ouais.
Donc il faut systématiquement le faire et ne pas le reporter. Et le tout dernier point, qui est très basique, c'est de tenir un enregistrement, un record, un suivi de cette dépense et pour s'assurer que ce qui a été dépensé. Regarder régulièrement son relevé bancaire pour savoir s'il y a des opérations qui ne relèvent pas de nous. Donc ce sont ces différents points que je conseillerais à nos auditeurs.
Alors à présent, on va faire connaissance avec vous et votre parcours, votre histoire. Racontez-nous un petit peu votre cheminement et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes directeur général du groupe Visa Afrique de l'Ouest et centrale francophone et lusophone Ismaïl Diaby.
Alors, qu'est-ce qui fait En général, je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais je vais me prêter à cet exercice aujourd'hui.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui fait ? Je pense que déjà, c'est l'éducation, la force d'éducation des parents qui a beaucoup joué. C'est le fait d'avoir une famille unie autour de moi, mon épouse, mes enfants, qui ont donné cette force-là. Maintenant, pour ce qui est du côté pratique, je suis un simple
vous êtes né où ?
Africain qui a fait ses études à Abidjan,
ouais.
Fait mes études à Abidjan jusqu'au bac. Ensuite, mes parents m'ont envoyé en Europe.
Où ça ?
Comme beaucoup d'Africains, à Paris, enfin
d'accord.
en France.
Okay.
À Paris, c'était une des étapes. Alors donc en France, faire mes études, donc j'ai été sanctionné par un titre d'ingénieur maître et un management de l'université de Clermont-Ferrand, puis un master en marketing, communication et stratégie commerciale de l'école de commerce INSEC Paris.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai toujours eu une conviction, celle de dire je fais mes études en Europe, mais je vais rentrer en Afrique. C'était vraiment une priorité, c'est quelque chose que j'avais. Et j'ai eu suffisamment de chance de rentrer, d'intégrer Western Union, que vous devez connaître, une entreprise de transfert d'argent. Et donc, chez Western Union, j'ai eu l'avantage de travailler à Paris, mais couvrir le continent africain. Donc, en charge du marketing pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai piloté le marketing pour l'Afrique de l'Ouest pendant 7 ans chez Western Union. À Paris, puis à Casablanca. Et Casablanca était le premier pas pour moi en Afrique. Ensuite, j'ai été détecté par le groupe BNP Paribas qui m'a demandé de les rejoindre en 2010 pour piloter le business development de la banque en Côte d'Ivoire. Donc c'était le deuxième pas en Afrique et c'était le premier retour chez moi en Côte d'Ivoire. Donc piloter le business development de la banque de la BCC et ensuite prendre les rênes du retail banking pour la clientèle des particuliers de la banque. Et là, donc je me plaisais bien à Abidjan, j'ai été détecté encore par le groupe Visa qui m'a demandé, bon voilà, vous gérez la Côte d'Ivoire pour le groupe BNP Paribas, on vous offre une responsabilité régionale de directeur du business development pour l'Afrique de l'Ouest, Mais cette fois-ci, vous devriez repartir à Casablanca. Bon, chose que j'ai acceptée parce que j'apprécie bien ce pays.
Ouais.
Donc Casablanca, mes responsabilités au bout de 3 ans se sont vues étendues à l'Afrique centrale. Donc, directeur du business development pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avant de, a priori, d'avoir bien fait mon boulot. Et avant de m'être vu promu en tant que directeur général pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avec base pour base Abidjan. Et donc j'occupe ces responsabilités depuis 3 ans maintenant de directeur général pour cette région de 17 pays, de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Bravo pour ce parcours. En tout cas, un parcours à féliciter, Ismaïl Diaby. Ça a été un plaisir en fait de vous avoir ce matin pour parler un petit peu de l'actualité du groupe Visa sur le continent africain et présenter aussi votre parcours aux auditeurs qui nous écoutent. Comment on pourrait conclure cet entretien? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer?
Merci beaucoup déjà pour l'opportunité qui m'a été donnée de parler de ces différents sujets extrêmement importants. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'Afrique, le monde aujourd'hui, en général, évolue vers le digital, vers le numérique. Et c'est une tendance, c'est l'avenir, mais l'avenir, c'est maintenant. Et l'Afrique ne peut pas rester en marge de cela. L'Afrique devra suivre le reste du monde à sa façon, dans son contexte. Et Visa, chez Visa, nous travaillons... vraiment d'arrache-pied avec nos différents partenaires, institutions financières, gouvernements, fintech, opérateurs, télécoms et régulateurs, afin d'être le meilleur moyen de payer et d'être payé sur le continent. Et c'est la promesse que nous avons et que nous devons tenir ici sur le continent et en particulier la région que je couvre.
Merci beaucoup Ismaïl Diaby, on vous souhaite beaucoup de belles choses, bon vent pour la suite et merci beaucoup de vous être rendu disponible pour les auditeurs d'Africa Radio ce matin et on en profite pour saluer les équipes Léonce Kouakou, Alkali Fadiga et Fatou Yatabaré. Merci à vous, on se retrouve demain avec le dernier invité de la semaine en duplex de Babi. On vous embrasse, bonne journée à tous.